Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons la censure, la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, d'être en contact avec vous chaque jour, lundi à vendredi à partir de 11h pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui au mardi 27 août 2024. Il est 11h sur votre radio et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse, le deuxième numéro d'ailleurs pour le compte de cette semaine qui démarre ici. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATV Assure. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossomiso. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, mais bien avant, il y a aussi Sky FM à Badou et Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et vous comprenez sans doute que cette émission Club de la Presse est suivie alors partout au Togo. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre page YouTube et aussi la page Facebook. Et bien sûr, nous avons aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous savez très bien que c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Eric Pakoudou, Josson est là. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça peut aller, merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui m'ont assisté et m'ont accompagné pour l'enterrement de ma très chère regrettée mère. Ça s'est passé le week-end et je vais vraiment dire merci parce que j'ai vu du monde.
D'accord, vous avez vu vraiment du monde. Et toutes nos condoléances une fois encore.
Merci.
Justin Ami, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Très bien, comme un poisson dans l'eau. Permettez-moi de saluer.
Claude, mais pas n'importe quelle eau quand même.
Oui, oui.
Le lac Togo.
Claire, le lac Togo, oui. Bonjour à nos invités. Je salue tout le peuple Guin.
Oui.
Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le jeudi 29 août prochain.
Eric, c'est quelque chose.
Les cérémonies de la prise de la pièce sacrée avec Bacho à Gledikouzi. Donc, par anticipation, bonne fête à tout le peuple Guin. Et à tous ceux-là que nous aurons également l'occasion à inviter.
D'accord. Vous n'avez pas encore commencé par inviter?
L'invitation est déjà partie depuis.
Mais là, vous devez savoir ceux que vous avez invités pour aussi les saluer.
Ça est dans l'agenda.
D'accord, ça fait plaisir.
Ouais, Pascal, oui. Écoute, l'occasion fait le larron. Oui. Comme il l'a déjà annoncé, évidemment, il y a eu une annonce qui appelle tous les Togolais à se mettre à côté des natifs Guin pour cette cérémonie de PEP qui se déroule le jeudi,
le jeudi 29 août
à 14h précises. Ça, c'est le communiqué officiel du trône royal.
Le démarrage des hostilités.
Voilà.
Et j'espère que vous n'êtes pas le chargé de communication quand même du trône royal.
Non, pas du tout, mais écoute, comme il faut quand même parler de ça, cela, nous avons essayé, et je me rappelle, tu m'avais posé la question si j'étais au courant la semaine dernière, j'étais au courant que ça allait se passer en août, et je te disais non, que habituellement, c'est en septembre. Par contre, il y a certains événements qui font que ça se repousse un peu. Et Justin avait envoyé un texto pour dire évidemment que c'est le 29 à 14h. Merci.
Merci
et
beaucoup.
Et que l'information aille partout. Nous serons là pour accompagner les parents et que cette cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions.
D'accord. Merci beaucoup. Que l'information aille partout. Vous l'avez si bien dit. Mais déjà, nous avons quelques soucis sur notre antenne depuis un temps et la direction de la radio Canal FM informe ses fidèles auditrices et auditeurs que suite à une panne technique, la réception de ces éditions et émissions a baissé en puissance et en qualité, et tout en s'excusant pour les désagréments que cette situation vous cause. La direction vous rassure que la panne sera réparée dans les tout prochains jours. En attendant, nous prions, nous vous prions de capter nos émissions sur www.canalfm.com ou sur le bouquet Otia que vous pouvez télécharger sur Play Store. La direction vous réitère ses excuses et vous remercie alors pour votre bienveillante fidélité d'écoute sur, bien sûr, la 93.5, la nouvelle génération. Alors, nous avons notre chroniqueur, nous sommes au mardi, Claude Astiobotis, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ça peut aller.
D'accord, je rappelle que vous êtes chroniqueur littéraire, conseiller littéraire et écrivain. Vous avez beaucoup d'ouvrages à votre actif, des ouvrages même d'ailleurs qui ont reçu des distinctions. Ça, on ne va pas en revenir justement. Mais Claude, c'est vrai que déjà le mardi dernier, nous avons discuté d'un sujet très important. Nous avons défini la dernière fois la lecture comparée à l'importance de la religion, de l'école et de l'expérience personnelle. Pouvez-vous nous rappeler très brièvement cette réflexion ?
Non, nous avons tout simplement dit que ce que n'est pas la lecture. La lecture, ce n'est pas une lecture professionnelle. Un économiste qui lit un livre d'économie, il est en train d'approfondir, de réviser ses cours. Ça, c'est pas une lecture. La lecture superficielle, quelqu'un qui ne cherche que des sensations à travers des aventures, des histoires d'amour, ce n'est pas non plus une lecture, c'est superficiel, parce que cette lecture sans voir ce qu'il y a derrière, et c'est une lecture superficielle.
Un administrateur calibré qui lit des livres sur l'administration publique.
Et ça, c'est pas une lecture. Ça,
c'est juste une révision.
Il révise ses cours. Alors, il s'agit, lorsqu'on lit, c'est de voir tout ce qui est derrière. Profondément sociologique, profondément philosophique, profondément psychologique, par exemple. C'est pourquoi dans une littérature où il n'y a pas de critiques littéraires, c'est une littérature presque vide. C'est ce qui arrive au Togo. Alors, c'est ça.
Mais est-ce que c'est au Togo seul ou bien d'autres pays aussi?
Non, principalement au Togo. Je crois qu'au Bénin, ça bouge beaucoup. Parce que ça bouge beaucoup. Beaucoup de pays font beaucoup de choses.
D'accord.
Mais c'est pas la priorité Claude, ici. Oui. Claude, excuse-moi. Oui. Quand, par exemple, je prends un livre de journalisme que je lis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai eu à apprendre, est-ce que c'est pas une lecture, ça ne me permet pas de me reformater un peu par rapport au travail que j'effectue,
ou de faire plutôt la mise à jour de ces informations.
Oui, mais c'est ça, la mise à jour, mais tu es toujours docteur, tu seras toujours docteur d'un seul livre. Ça veut dire la formation que tu as eue.
Okay.
La lecture, c'est plus que ça. Ça rend pluriel. Comme le dirait un fou, je suis, le fou dit, je suis nombreux. c'est très significatif. Alors la lecture, c'est quoi la lecture en réalité? Je vais lui répondre. C'est s'enrichir en idées plus larges, qui vont au-delà de ses expériences professionnelles, des expériences personnelles, et les dogmes d'une religion, par exemple. Et c'est de s'enrichir aussi en vocabulaire, en vocabulaire, pour connaître la vie et le poids des mots.
D'accord,
et après tout, les jouissances esthétiques.
Alors Claude, quels sont les grands impacts de la lecture sur l'individu?
Je peux vous dire tout de suite trois ou quatre choses. Et la lecture permet de rajeunir, de s'agrandir, pas la lecture, les écrits en général.
Rajeunir physiquement.
Même la presse. Lorsque je parle de la lecture, je pense même à la presse. De rajeunir, de s'agrandir, de grandir et de s'approfondir. Voilà.
C'est des mots très intéressants à expliquer.
Oui, bon, oui, si tu veux, si on a un petit
tout à fait.
Temps, on peut l'expliquer.
Rajeunir.
Rajeunir, ça veut dire... tu sais, l'homme, c'est comme un arbre. Il doit s'agrandir, s'approfondir, grandir, renouveler même ses feuilles, ses branches. C'est ça. Alors, rajeunir, c'est quoi? Scientifiquement, c'est prouver que lorsqu'on lit, on fait une lecture sérieuse, ça agit sur les réseaux neuronaux. Ça redessine l'esprit. C'est le cerveau. Médicalement, c'est prouvé. Pas les petits livres, les livres qui vous font réfléchir, qui vous interrogent. Médicalement, les médecins vous le diront, ça fait bouger beaucoup l'esprit. Et ça trace des pistes sérieuses dans le cerveau. Et c'est ça, médicalement. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est un patio. Alors, ça, c'est rajeunir. Grandir, et grandir, et s'agrandir. Vous savez, les livres, ou les écrits en général, c'est des documents les plus élaborés. Par exemple, les journalistes ne se lèvent pas comme ça à écrire ce qu'ils veulent.
Non.
Ils vont se documenter, faire des enquêtes, et faire lire, chasser. C'est très élaboré. Alors, comme c'est très élaboré, vous ne pouvez pas lire ces choses-là sans grandir. Voilà. Et puis, c'est une école de la contradiction. Et c'est une grande école de la contradiction à la lecture. C'est ça, l'exemple le plus palpant, c'est la presse. Lorsque je parle de la lecture, je parle aussi de tous les écrits.
Oui.
Ce que moi je conseille souvent à mes élèves, c'est de faire une lecture contradictoire. Par exemple, en politique, il ne faut pas lire seulement les journaux d'une seule sensibilité.
Ouais.
Il faut toujours lire les deux.
Ça vous pour mieux comprendre.
Il faut aller à l'école de la contradiction.
Ouais.
Sinon, vous serez pauvre. Il faut toujours aller à l'école de la contradiction.
Pauvre intellectuellement.
Voilà, c'est ça. Et puis, un autre exemple pour s'agrandir et grandir, le livre nous arrache à notre niche culturelle. Vous savez, souvent, nous sommes fomentés par notre milieu. Le livre, c'est un voyage qui nous fait découvrir d'autres environnements, découvrir l'homme divers, mais à la fois divers et semblables. Ce qui nous fait bouger souvent de nos préjugés et de nos superstitions. Par exemple, lorsque les Européens croient, par exemple, qu'en Afrique, chaque homme a son éléphant, que nous sommes dans la brousse, on voyage sur des lianes. Mais lorsque vous lisez
est-ce qu'on est encore à cette étape?
Non, pas du tout, mais ça pas. Mais c'est ce que la télévision, le malais Kikuyu et tout ça. Bon, mais lorsque vous lisez un livre, un blanc qui lit un livre d'un auteur africain, mais il découvre des choses. Par exemple, il peut découvrir qu'il y a des boulevards même en Afrique. Un livre
pas
moderne.
Pas un seul boulevard.
Des boulevards. Qu'il y a des édifices. Etc. Voilà comment le livre nous fait agrandir. Et surtout, le livre, et je vais chuter là, c'est un lieu d'approfondissement. Surtout à travers les œuvres littéraires. Je vais vous donner des exemples, je vais argumenter un peu. Si quelqu'un vous dit en face maintenant vos défauts, en face, pas la parole, pas la mimique, ou pas les yeux, c'est la guerre, nous sommes d'accord. Mais le livre, ça joue bien la fonction de miroir, par sa capacité de vous donner une distance, de vous dédoubler vous-même, par sa puissance, la puissance de son silence, le livre nous fait descendre dans nos poubelles intérieures, sans querelle. Sans querelle. Et vous voyez ça, sans haine. Moi, je peux vous donner mon exemple.
Oui.
Lorsque j'ai découvert la littérature africaine, les œuvres de la négritude en seconde, mais ça a été une révolution solitaire. Et je me suis demandé, mais pourquoi je m'appelle Claude ? Un nègre sur le territoire tropical, Claude, ça ne veut rien dire. Richard, tout ça.
Vous avez remis ça, en ça, cause, voilà, en cause votre nom.
Mais par contre,
oui.
Lorsqu'on a commencé à nous imposer les noms authentiques, je me suis révolté.
Comment ça?
Parce qu'on me l'a imposé.
Mais c'est seulement.
Lorsque je découvre ça tout seul, dans mon miroir, et que je m'appelle Claude, alors que je suis Wati, par exemple, je suis Wati, et je m'appelle Claude, c'est ridicule.
Vous maintenez toujours le nom.
Non, je maintiens parce que, après tout, ça a laissé sur nous des traces indélébiles. C'est que vous n'arrivez pas à vous abolir, mais vous arrivez à une synthèse équilibrée de vous-même. Hein, c'est ça, le noir, on ne peut plus retourner. Hein, à l'âge de la pierre d'Ontaille. Hein, mais vous arrivez à une belle synthèse de vous-même.
C'est très important de lire.
Voilà.
La lecture, telle que vous l'avez dit, a de grands impacts alors sur la vie de l'homme, ou le parcours même d'ailleurs de l'homme. Et donc, il est très important de lire.
Très, très important de lire.
D'accord.
Et ce n'est pas seulement, on ne se prive pas seulement d'un plaisir, mais on se prive d'un devoir.
D'accord, on se prive d'un devoir. Voilà. Alors, Assio Bottis.
Je voudrais quand même ajouter un peu par rapport à ce que Claude vient de dire.
Il
a
5 minutes. Hein.
Justement,
oui.
Micro.
Non, mais à Saline, oui.
Ouais, tu sais que ça m'intéresse. En fait, c'est le roman de Sami Chak qui dit. Le continent du tout et du presque rien.
Oui.
Et cela a fait l'objet de critiques à l'université de Sorbonne où il est allé présenter quand même ce livre-là pour parler du continent, de notre vécu quotidien. Parce que, justement, pour t'appuyer, les gens-là nous prennent toujours comme des sauvages.
Voilà.
Et il faut leur montrer que nous avons dépassé cette étape. C'est l'occasion pour moi de dire encore tout de suite que Sami Chak est finaliste pour un prix qui s'appelle Théophile, un prix franco-africain dont le lauréat sera connu en septembre prochain.
D'accord.
Et donc je dis avec son roman Mélodie pour une douleur. Qui a déjà reçu d'autres prix. Et je crois que c'est très important de l'annoncer quand même à nos auditeurs.
C'est vrai. Merci.
C'est un très bel exemple, livre présenté à la Sorbonne. Il a donné l'exemple très, très spécifique.
Justement, voilà. Très spécifique. Merci beaucoup, Claude Assio-Bottis, d'être passé dans cette émission. Nous allons nous revoir déjà la semaine prochaine. Ce sera bien sûr le mardi.
J'ai fini ma mission.
Merci beaucoup. Vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part.
Surtout
aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Claude, et bonne journée. Alors, nous revenons en studio pour parler de nos débats en studio, bien sûr, avec des confrères journalistes et aussi un invité. Nous avons un invité, c'est Kanka Malik Natsamba, ministre, bien sûr. Monsieur Natsamba, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour le plateau.
Bonjour, monsieur le ministre.
Voilà, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, c'est vrai, on sait que c'est tout récemment que le gouvernement a été mis en place, le gouvernement de transition. C'est vrai, monsieur le ministre, concernant surtout votre pause, il y a des gens qui ont vite fait même d'ailleurs de polémiquer sur votre pause en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Donc, on se dit que, mais... un jeune qui est à la tête alors des professeurs agrégés, et ça a amplifié la polémique. Est-ce que vous vous sentez à l'aise alors à ce poste?
Merci beaucoup. En premier lieu, nous, comme toute nouvelle fonction, nous abordons cela avec beaucoup d'humilité, beaucoup de conscience qu'il s'agit d'une responsabilité importante, s'agissant en particulier d'un secteur qui irrigue la vie de notre pays dans plusieurs secteurs. Et je pense que le rôle ministériel a beaucoup évolué dans le temps. Et l'administration a aussi évolué. La vision même des plus hautes autorités nécessite que aujourd'hui, dans le cadre d'une gouvernance concertée prônée par le chef de l'État lui-même, le travail ministériel soit un travail d'animation d'une équipe soudée et qui permette d'atteindre des objectifs. Donc le management n'est pas un management solitaire, ni individuel, ni même basé sur la personne, mais plutôt sur la capacité à engager un collectif, quelles que soient les diversités qu'il y a dans ce collectif. Le monde universitaire est un monde très divers, le monde de la recherche également, et nous aurons beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur à travailler avec les différents acteurs de ce secteur.
D'accord. Alors, c'est vrai, nous allons mener cette discussion hein, autour surtout de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et le gouvernement est dans l'exécution alors de cette feuille de route plus de 4 ans déjà. Hein. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait dans les différents segments alors de ce document?
Merci beaucoup. Le temps, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le temps écoulé depuis le lancement de la feuille de route gouvernementale, c'est à peu près 75% du temps. Et je pense qu'il est aussi important, comme cela a été rappelé lors de la présentation de la déclaration de politique générale, que cette feuille de route est intervenue dans un contexte particulier et un contexte qui continue à s'agréger de difficultés que nous voyons tous. Le premier élément de ce contexte, c'est les suites de la pandémie à la COVID qui ont beaucoup affecté l'économie, qui ont affecté la vie individuelle des uns et des autres. Donc il fallait savoir qu'on était dans un contexte de redémarrage. Donc la feuille de route a démarré dans un contexte de redémarrage. Et très rapidement, malheureusement, il y a eu la crise entre l'Ukraine et la Russie qui est venu ajouter un poids plus important sur deux éléments très rapidement. D'abord sur la mobilisation des ressources au profit de notre développement, mais aussi sur l'inflation, l'augmentation des prix que les uns et les autres ont pu expérimenter. Et je dirais, dernier élément que je globalise sous les éléments de la dégradation de la situation sécuritaire, l'instabilité dans notre sous-région, et qui ont renforcé en quelque sorte la vulnérabilité des populations en général. Je parle ici non seulement des attaques sur notre territoire, mais aussi de l'impact que peuvent avoir les déplacés que nous avons accueillis, qu'ils viennent de l'étranger ou que ce soit des déplacés internes. Donc, en réalité, ce contexte est un élément important à prendre en compte. Il n'empêche que malgré ce contexte, notre pays a su tirer son épingle du jeu grâce aux orientations très avisées du chef de l'État, et notamment d'abord en signalant que notre économie s'est montrée robuste, avec un taux de croissance qui partait de 2% au début de la feuille de route, qui est actuellement autour de 6%, et avec une hausse des investissements publics qui est passée de 300 et quelques, près de 400 milliards à 500 et quelques milliards aujourd'hui. Donc ça, c'est pour des données un peu purement économiques, pour montrer qu'il y a quand même de la robustesse et de la résilience. Sur les réalisations, quand on prend axe par axe, on sait qu'il y a 3 axes et que un des éléments phares de la feuille de route, c'est l'accent sur l'inclusion et l'harmonie sociale. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on sortait de la COVID et l'objectif était de tirer les leçons de la vulnérabilité des populations pour renforcer cette vulnérabilité. Et si je prends l'axe 1 pour ne pas peut-être tout détailler, on a un projet comme l'identification biométrique qui est un projet majeur qui a vocation à identifier tous les Togolais. Aujourd'hui, ce projet, la phase qu'on appelle la phase pilote, qui a concerné près de 20 000 personnes, des étudiants, des agriculteurs, qui sont des groupes organisés donc, qui ont été identifiés. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de généralisation. Ensuite, on peut parler du domaine de la santé, où, comme la déclaration de politique générale le mentionnait, plus de 200 centres de santé ont été réhabilités ou construits. Les centres de santé mère et enfant sont en voie d'achèvement pour les 5 qui sont en train d'être construits.
Et il semble que d'ici la fin de cette année, tout sera réceptionné.
Exactement, les 5 centres de santé, mère et enfant, et tout ceci dans une dynamique de renforcement de notre plateau technique. Et donc, je rajoute à cela l'hôpital Dr. Lafia qui a été opérationnalisé, qui a rajouté des services en plus en termes de qualité de soins que nous délivrons sur notre territoire. Et bien entendu, des dynamiques de renforcement des grands centres de santé régionaux que sont les CHU qui sont à Lomé et le CHR d'Okara notamment. Et à côté de cela, nous avons bien vu qu'il y a eu une généralisation de l'assurance maladie universelle qui prend appui en réalité sur des expériences que nous avons déjà connues. Il y a l'INAM pour les fonctionnaires, mais il y a aussi Scoulassure pour les élèves et aussi le programme Wezou qui est une forme de prise en charge des soins de santé pour les femmes enceintes. Et donc, toutes ces dynamiques-là ont été des expériences qui permettent aujourd'hui d'avoir une protection sociale élargie, une protection maladie élargie qui est en train de se mettre en place de manière progressive sur ces aspects-là. Dans le domaine de l'éducation, les éléments importants mentionnés, c'est d'abord le renforcement du personnel, parce que en réalité, l'éducation de qualité repose aussi sur le personnel. On a recruté, il y a eu des recrutements de plus de 11 000 agents enseignants, ce qui a permis techniquement, hein, quand on rajoute cela aux infrastructures, ça a permis de faire baisser le nombre d'enfants par classe de 80 à 69. Ça, c'est rationnel, c'est ce qui est constaté sur le terrain. Et à côté, il y a eu une augmentation du taux d'achèvement. Parce qu'au final, pour qu'on investisse, on investit pour que les enfants qui sont inscrits à l'école finissent effectivement les différents cycles dans lesquels ils sont inscrits. Et la conséquence de cela, c'est que ça fait baisser considérablement le nombre d'enseignants volontaires. On était à 41%, aujourd'hui on est à moins de 10%. C'est vrai, il existe toujours dans nos milieux des personnes qui ont eu à donner de leur temps pour participer à la construction du système éducatif et il y a toujours des efforts qui sont mis en œuvre pour que cela puisse s'améliorer. Et je pourrais finir sur l'aspect éducation en parlant de l'enseignement supérieur pour le coup, avec la dynamique qui est visible des yeux de tous à l'université de Lomé, l'université de Kara pour laquelle des bâtiments sont en construction avec la pose de la première pierre de la construction des bâtiments et l'université de Dacha qui a été créée pour pouvoir compléter le dispositif de formation de l'enseignement supérieur. Et je rajoute enfin les IFAD, les instituts de formation en alternance pour le développement qui sont aujourd'hui opérationnels, l'IFAD bâtiment, l'IFAD énergie renouvelable, l'IFAD élevage à Barcossi et l'IFAD aquaculture qui est le tout premier IFAD à El Avagnon. Ça, c'est sur l'accès aux besoins sociaux que je complète. Je prends beaucoup de temps sur cet aspect inclusion sociale que je complète avec les accès à l'eau et à l'électricité. L'eau et l'électricité sont des enjeux majeurs pour nos populations. Et la réalité est qu'il y a eu un accroissement du taux d'accès à ces deux besoins essentiels, oui. Que ce soit l'électricité ou que ce soit l'eau. Et je vais en finir là pour l'axe 1. Et ensuite...
Oui, mais justement pour ce qui concerne surtout l'eau et l'électricité, okay, on sait ce que les populations vivent actuellement avec. On se souvient même d'ailleurs de ces moments d'obscurité dans lesquels les Togolais sont restés jusqu'à ce que justement le plan de rationnement alors ne soit établi. Exactement. Mais finalement, on est en train de constater que toujours est-il qu'il y a ces derniers temps des coupures alors intempestives. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre?
Non, je crois que la compagnie d'énergie électrique qui est chargée de cela a fait un communiqué la dernière fois. Il peut y avoir en réalité des situations ponctuelles, puisqu'on le voit, ces coupures ne sont pas de la même ampleur que ce que nous avons connu, heureusement. Et grâce aux efforts qui sont menés pour pallier notamment aux difficultés que tout l'écosystème ouest-africain a connu, aujourd'hui, l'État a pris l'engagement en termes de carburant, en termes de combustible nécessaire pour produire de l'énergie, de changer l'approche pour pouvoir justement permettre que nous disposions de l'énergie. Et parallèlement, l'objectif au final, c'est que à la fin de la journée, on puisse augmenter notre capacité à produire de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a la centrale Kekeli, c'est pour ça qu'il y a la centrale de Blita qui est passé de 50 à 70 et qui passera de 70 à encore plus dans quelques temps. Donc, il y a cette volonté de renforcer ce réseau-là pour que nous gagnions notre souveraineté énergétique.
Et il est dit que le Nigeria menace même de couper le Togo sur le plan électrique. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est des informations qui circulaient sur des réseaux sociaux.
Je pense que ce genre d'informations, et d'ailleurs, je fais référence à la conférence de presse qui a été animée par la ministre en son temps, oui, qui était très claire, c'est-à-dire que en réalité c'est des relations commerciales. Donc des relations commerciales, je pense que s'il y a des discussions sur les tarifs, sur le paiement, sur les modalités, cela se passe entre les partenaires commerciaux et non sur les réseaux sociaux. Donc je crois que et comme elle a dit, il n'était pas l'enjeu, le sujet, le défi, ce n'était pas une question de paiement.
D'accord.
Donc, il n'y a pas cette problématique-là à ma connaissance, et en tout cas à la connaissance de ce que les autorités du secteur elles-mêmes ont eu à partager. Et ce qu'il faut rajouter dans le domaine de l'énergie, c'est le fait qu'avec le fonds Tinga, par exemple, il a été question de renforcer la facilité d'accès de nos populations au raccordement électrique. Parce que finalement, il ne faut pas qu'il y ait une barrière à l'entrée de l'électricité qui est rendue disponible. Donc aujourd'hui, avec le fonds Tinga, il est plus facile d'avoir accès à l'électricité avec des effets positifs dans nos milieux.
D'accord, monsieur le ministre, toujours sur ce point, il y a Eric qui a une question pour vous, Eric.
En effet, je crois que depuis que ça a repris, hein, les coupures d'électricité, on est allé à l'information et c'est hier soir qu'on a appris finalement qu'au fait, il y avait des pannes techniques sur Akrosombo qui réduisait la capacité de d'énergie qui nous est fournie au Togo. Et donc, ça a causé autant de dysfonctionnements sur le réseau. Et l'autre chose, c'est par rapport au Nigeria. Et donc, le ministre l'a bien dit, mais je crois qu'il y a encore quelque chose qu'il faut dire. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui nous donne beaucoup plus d'énergie par rapport aux autres fournisseurs extérieurs. Et donc, nous-mêmes, sur place, nous essayons, enfin, la société essaie, hein, d'accompagner la production locale pour que nous puissions avoir l'énergie à temps. Mais, monsieur le ministre, je voudrais vous poser une question. Tout ce que vous venez de nous dire, c'est bien beau, hein, c'est bien, on dit que le Togo a les meilleurs projets, et je dirais que ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, le citoyen lambda souffre encore, hein, de ces besoins-là, et de ces besoins vitaux. Alors, vous me parlez de l'inclusion sociale. Alors, avec le nouveau gouvernement, comment ça va se passer pour qu'il n'y ait plus assez de cris, de cœur des concitoyens?
D'accord. C'est une question que je voulais même poser, mais il m'a devancé. Voilà, il n'y a pas de souci.
Non, je pense que comme cela a été dit d'abord dans les différents dialogues qui ont eu avec la population pendant la période électorale, cela a été redit la dernière fois à l'Assemblée nationale, il y a reconnaître qu'il y a des actions qui ont été menées n'est pas contradictoire avec le fait d'entendre aussi les préoccupations ou en tout cas les indications sur les besoins de plus en plus croissants des populations. Et l'objectif, peut-être les défis auxquels ont été confrontés, parmi les défis auxquels ont été confrontés la feuille de route, il n'y a pas que celui-là, il y a ce défi de ce qu'on a qualifié du dernier kilomètre, c'est-à-dire de faire en sorte que, en réalité, la réalisation ait effectivement l'impact attendu de cette réalisation-là. Mais pour s'interroger sur l'impact, il faut avoir fait la réalisation. Et aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau où nous en sommes, les réalisations sont là. Il faut maintenant poursuivre en termes de suivi, en termes de continuité, en termes de collaboration sur le terrain, y compris avec les populations, y compris avec les élus locaux, y compris avec les élus régionaux bientôt, pour qu'on puisse vérifier et s'assurer que ce suivi-là va jusqu'au dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, c'est que quand on appuie sur le bouton, le service attendu puisse être vraiment un service dont on peut profiter, que ce soit en matière d'électricité, que ce soit en matière d'eau et que ce soit en matière de sujets. On a vu, hein, dans nos localités, ça existe, des différentes réalisations qui existent, des forages, etc., mais qu'il faut suivre pour que justement l'eau puisse être effectivement fournie. Mais c'est un des défis qui a été identifié, qui a été d'ailleurs abordé lors de la présentation de la feuille de la
politique générale,
de la déclaration de politique générale, merci, et dans l'esprit de dire aujourd'hui le challenge commun que nous avons collectif et national, c'est de nous engager tous collectivement à ce suivi-là qui permettra de réaliser ce dernier kilomètre au profit des populations.
D'accord. Justin ?
Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Je ne sais pas si actuellement vous êtes le porte-parole du gouvernement ou non.
Non.
Et à ce que je sache, je suis la liste de la composition du gouvernement. Il y a deux personnalités majeures, notamment le ministre Trimoy. Et madame...
Quigan.
Non. Je veux parler des absents. Sur la liste, il y a madame Blamba.
Johnson, voilà.
Et ma première préoccupation est celle de savoir quelle est aujourd'hui leur position, puisque vous nous parlez un peu du gouvernement, de la feuille et les as. Et ma deuxième préoccupation, vous venez de le dire, je remonte un peu sur le volet de la santé, parce que à l'analyse de ce que madame la Première ministre a présenté la fois dernière, on sent une auto-satisfaction par rapport à ce qui a été fait. Mais je fais observer qu'au niveau de l'hôpital préfectoral d'Anero, il y a un manque criant là-bas, notamment le scanner qui n'est pas.
Donc, vous parlez alors des équipements.
Des équipements, bien sûr. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait. Et peut-être pour terminer, parce qu'il y a deux as qui m'ont touché le domaine du football, qui vont amener à revenir là-dessus, et que aujourd'hui, chaque fois qu'une présentation est faite devant les parlementaires, on a l'impression que c'est du déjà vu. Maintenant, j'aimerais savoir combien de temps il vous faut pour accomplir toutes ces bonnes intentions-là.
D'accord. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup. Je peux essayer en ma qualité de familier des sujets administratifs et institutionnels, de parler un peu des deux collègues que vous avez cités en demandant quel est leur statut.
Pourquoi pas d'anciens secrétaires généraux du gouvernement?
Oui, aussi. C'est voilà. Ça, je disais ouais. En général familier en incluant cela. Mais il vous souvient que ces deux collègues ont été nommés par des décrets séparés du décret portant nomination du gouvernement. Dans le temps déjà, c'était le cas. C'est-à-dire que en 2020, madame la ministre secrétaire générale de la présidence avait été nommée par un décret à part. Et également, à l'époque, le SGG que j'étais aussi avait été nommé par un décret à part. Et donc, quand Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé un nouveau SGG, ça s'est fait de la même façon, puisque quelques jours après, il y a eu un ajustement du gouvernement où il y a eu un autre décret, etc. Ça ne s'est pas présenté le même jour. Donc, c'est pour dire que, en fait, leur décret n'ayant pas été rapporté, ils restent entièrement en fonction et dans l'exercice de leur mission conformément aux tests qui les ont nommés. Donc cela n'a pas de difficulté particulière d'un point de vue purement administratif. Donc c'est pour répondre à la question. Sur ce qui est du domaine de la santé...
Non, sur ce qui concerne le ministre Trimoy, lui faisait partie du gouvernement, il est porte-parole, au même titre que madame Cugan.
Non, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que sa nomination a été faite dans un acte, un décret séparé. Donc, dès lors que ce décret n'a pas été rapporté, il garde les prérogatives qui sont mentionnées dans ce décret. Okay. Je ne sais pas si c'est...
Oui, justement, c'est vrai.
Oui. D'accord, merci d'avoir sollicité la précision. Pour ce qui est de ce que vous avez parlé des différents équipements, je pense que nous devons appréhender, comme d'autres pays l'ont fait avant nous, hein, le secteur sanitaire comme une sorte de cartographie. C'est-à-dire que il y a certains équipements qui commenceront peut-être à être mis dans des grands centres de santé, si nécessairement urbains, qui regroupent beaucoup de monde, etc. Et ensuite, il y aura des questions de référencement. Parce que effectivement, il n'est peut-être pas simple, au moment où nous parlons, en termes de capacité, que les centres de santé préfectoraux soient dotés de l'équipement dont vous parlez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il y a une question de référencement. Il y a le niveau CMS, quand on ne peut pas, on est référencé à un niveau préfectoral, et le niveau préfectoral, ensuite, on est référencé à un niveau régional. Ce qui permet aussi au système de fonctionner efficacement. Parfois, il y a ces comme on est souvent en ville, on va directement parfois au niveau régional sans parfois aller à l'hôpital de proximité, au centre de santé de proximité. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les réformes sont, en termes d'équipement sont en cours. Et c'est pour ça que nous avons parlé du CHU de Lomé et du CHU Campus qui sont aujourd'hui des centres où les équipements sont en train d'être mis en place. En termes de scanners, il y a des actions qui sont menées et de la même façon au CHR de Cara. Donc ces dispositifs-là sont des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir justement gérer parfois le flux qui pourrait arriver de plusieurs autres endroits. Mais s'il y a les moyens, il n'y a pas de raison pour qu'on n'équipe pas les uns et les autres. Alors sur l'aspect du déjà-vu, moi je suis un peu... pour avoir l'honneur d'avoir un peu une petite expérience hein, lors de la présentation de la politique générale du Premier ministre en 2020, il y avait la feuille de route qui était à 0% du temps de réalisation et les réalisations dont nous avons parlé ne sont pas celles que nous citons aujourd'hui. Alors, pourquoi le déjà vu ? Peut-être parce que nous avons une cohérence en termes de vision. La cohérence part de la feuille de route avec les projets et les axes prioritaires. Et nous avons, pendant les 4 ans qui ont précédé, suivi scrupuleusement cette feuille de route-là. Et peut-être que le déjà-vu vient de là, mais j'allais dire à bon escient, parce que l'objectif, c'est aussi que les citoyens puissent nous suivre, que la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisse montrer sa cohérence et la manière dont cela se déploie, malgré les difficultés dont nous avons parlé, malgré le contexte compliqué dont nous avons parlé, le message qui est passé, c'est le message de garder le cap, de garder ce cap-là dans la mesure du possible et de pouvoir poursuivre la feuille de route. Et nous sommes en quelque sorte honorés que à 75% de temps, la feuille de route soit à ce niveau de réalisation. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Je pense que, comme cela a été dit encore une fois, il y a l'humilité de dire qu'il y a des choses qui ont été faites n'est pas du tout contradictoire avec le courage de reconnaître qu'il reste des choses à faire et qu'il y a des choses qui ne sont pas encore allées au bout de ce qu'elles doivent être. Et donc, c'est sur cela qu'il faut se concentrer et qu'il faut continuer à travailler dans la période que nous avons actuellement.
Mais, monsieur le ministre, c'est vrai que la curiosité de ce gouvernement, c'est de voir un membre alors de l'ANC, bien sûr, alors au sein de ce gouvernement, ce qui a fait tellement de polémiques, c'est normal d'ailleurs, il y a des journaux qui ont titré sur le sujet. Il y a Tu Express qui titre sur le sujet ce matin. Après la terreur, le régime RPT uni initie la stratégie du débauchage des cadres de l'opposition cas de l'ANC. Alors finalement, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment vous l'avez fait jusqu'à ce que M. Gomado se retrouve aujourd'hui dans votre gouvernement.
Je suis membre du gouvernement comme le ministre Gomado. Et que je félicite ici, comme tous les collègues, évidemment. Et je pense que, comme le ministre secrétaire général du gouvernement l'a dit à l'annonce du gouvernement, c'est un signe de l'ouverture et de la vision du chef de l'État qui est celle qui consiste à considérer que tous les Togolais, tous les citoyens togolais, quels qu'ils soient, ont leur pierre à apporter à l'édifice national. Nous sommes un pays jeune, qui a une marche, j'allais dire, longue vers le progrès, et nous ne pouvons pas, et je pense que la vision du PR est claire à ce sujet, nous ne pouvons pas nous permettre, en raison d'incompréhension ou de désaccords, écarter des personnes qui sont capables ou qui ont la volonté d'apporter quelque chose. Et je pense que c'est cela qui a conduit à cette nomination. Et il faut s'en féliciter parce que nous sommes dans des environnements où toutes les compétences peuvent aider. Et ce n'est pas seulement au gouvernement que les compétences pourront aider, partout. Et nous considérons qu'aujourd'hui, les uns et les autres, dans leurs différentes positions, contribuent à, avec leur modeste contribution, avec leur modeste exposition à la construction de cet édifice national-là pour lequel nous nous levons chaque matin.
Eric ?
Oui, monsieur le ministre, nous parlons là de... Enfin, de la déclaration de politique générale du gouvernement. Et dans ce cas, je veux qu'on parle un peu de l'agriculture. Aujourd'hui, quand on lit un peu ce discours-là, on a comme l'impression qu'on veut mettre l'agriculture au-dessus hein, de tous les secteurs d'activité qui permettent quand même au pays de se relever. Et j'ai un article dans notre parution du jour qui parle de ces jeunes-là qui ont envie de retourner à l'agriculture. Alors, dites-nous concrètement, parce que vous savez, je vais le dire très clairement, nous avons des difficultés à travailler avec le ministère de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce que là, il y a une rétention d'informations pas possible. Vous posez des questions, vous n'avez pas de répondants. Et donc, je crois que, est-ce que vous allez me dire aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, que nous aurons finalement des informations à mettre à la disposition de ces jeunes-là qui veulent forcément retourner à l'agriculture, qui n'est plus une agriculture de subsistance comme cela a été le cas il y a des dizaines d'années.
Monsieur le ministre.
Merci beaucoup. Je pense que monsieur Johnson a été parmi ceux qui ont accompagné les FOPAT, qui était un dispositif ouvert à tous les journalistes qui ont largement pu couvrir cet événement qui était d'un niveau que nous avons tous apprécié. Et ce que je peux dire par rapport à la vision à l'agriculture, c'est que effectivement, c'est le secteur au cœur de la transformation économique de notre pays. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur, l'impact que quand le secteur que la moindre difficulté dans ce secteur a sur l'ensemble de notre vie, quelle que soit notre position, hein, même si on travaille dans des bureaux, le jour où il n'y a pas de pluie, on a tous su par exemple que les pluies avaient du mal à démarrer dans la région septentrionale de notre pays. Même si nous ne nous donnions pas à l'agriculture, tout le monde était préoccupé. Début août, je peux vous dire que c'était un des éléments de conversation, en tout cas pour ceux qui viennent de cette région-là. Chaque fois où on parlait, c'est que les pluies n'ont pas encore démarré. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, on est content que les pluies aient démarré. Tout ça pour dire qu'en fait, l'agriculture togolaise est peut-être subdivisée en une vision stratégique à trois éléments. Le premier, c'est renforcer les rendements agricoles. Renforcer les rendements agricoles à travers les conseils aux agriculteurs, la carte de fertilité, l'utilisation du bon intrant, les engrais, les semences, et aussi la mécanisation agricole, avec les différents centres de mécanisation qui sont en cours de construction à Tichao et à Tové. Et d'autres vont suivre, évidemment. Et l'objectif, c'est qu'au final, on remplisse deux objectifs, qu'on atteigne la souveraineté alimentaire, évidemment, mais que aussi les revenus des producteurs agricoles soient des revenus dont ils peuvent vivre et qui leur permettent de s'en sortir. Et pour cela, il y a l'État qui fait l'effort qu'il fait en mobilisant les conseillers agricoles, avec un conseiller agricole par canton et même un conseiller agricole par ZAP. C'est-à-dire que quand on est un canton où on a une ZAP, on a deux conseillers agricoles. Donc, on a des conseillers agricoles un peu partout sur le territoire national qui permettent d'accompagner les agriculteurs, de leur expliquer quel est l'itinéraire qu'il faut prendre pour augmenter les rendements. Et à côté, il y a l'agence de transformation agricole qui a été mise en place et qui est une révolution dans le secteur. Parce que l'agence de transformation agricole cible ce qu'on appelle les ZAP d'excellence et qu'on voit régulièrement son excellence, monsieur le chef de l'État, lui-même aller régulièrement sur ce champ-là pour échanger avec les producteurs agricoles et comprendre les problématiques. Parce que en réalité, ce dont on se rend compte, monsieur Johnson parlait des jeunes qui veulent retourner à l'agriculture, c'est que les caractéristiques de nos terres ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Les productions qu'on peut avoir ne sont pas les mêmes d'une région à à l'autre. Les difficultés qu'on peut connaître ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Donc, il faut avoir une grande capacité d'écoute, ce que l'ATA a arrivé à mettre en place, et ils font un travail formidable qu'il faut saluer. Et nous espérons, et je pense qu'ils seront ravis de partager les informations, puisqu'ils le font sur différents canaux. Je pense qu'ils seront ravis de le faire avec vous, Monsieur Johnson, et probablement que, étant occupés à être dans les champs, peut-être qu'ils ont moins cette tendance à être avec vous, mais je pense qu'il n'y a aucun besoin de rétention d'informations. Peut-être que c'est la disponibilité qui fait défaut, mais c'est quelque chose que nous prenons comme une recommandation sur laquelle le gouvernement pourra travailler si l'occasion se présente.
De belles réponses, et pourtant le maïs, le bois du maïs est toujours à 1000 francs.
C'est ce que je disais en disant, c'est un secteur qui est soumis aux aléas climatiques, qui est soumis au fait que dès qu'il y a un retard, par exemple, dans la saison des pluies, l'impact est immédiat dans nos assiettes. C'est une réalité. Et pourtant, quand on prend le secteur agricole, c'est un secteur où l'État met par sac d'engrais, qui coûte 35 000 francs au départ, l'État met 18 000 francs pour chaque sac d'engrais. Et pour permettre que les agriculteurs aient accès à ces intrants-là, pour pouvoir produire ces matières premières agricoles et donc agir au final sur le pouvoir d'achat des populations. Ça reste un sujet qui est, je dirais pas complexe, mais qui est multifacteur. Le sujet du prix à la sortie pour les populations.
D'accord. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'entre-temps, il y a une initiative du chef de l'État qui demandait à accorder 25% hein, des marchés publics aux jeunes et aux femmes. Et entre-temps, bien sûr, nous avons vu même d'ailleurs en matière d'entrepreneuriat, il y a des jeunes qui nous ont été montrés publiquement comme étant des modèles de réussite. Mais à un moment donné, cela s'est estompé. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Non, je crois qu'il faut regarder cette initiative comme une initiative plutôt positive. Hein. L'initiative, puisqu'on est parti de 20% au départ, et ensuite c'est monté à 25% des marchés. Et quand on prend la totalité des marchés publics, il y a une somme considérable, autour de 100 et quelques milliards, qui ont été attribués à ces 25% des marchés publics. Et le suivi qui est fait, c'est qu'au début, on avait 30% de ces marchés réservés aux jeunes, qui était réellement attribué aux jeunes. Aujourd'hui, on est à 50 et quelques pourcents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes arrivent, et les femmes, parce que c'est des jeunes et des femmes, arrivent à accéder à ces marchés-là, mais nous devons, avec beaucoup de recul, maintenant que la mesure est appliquée depuis un certain temps, nous devons, avec beaucoup de recul, analyser en réalité la capacité même de notre écosystème entrepreneurial à répondre suffisamment à certaines commandes. Et il est vrai que dire cela, c'est parler, c'est-à-dire que les deux doivent se nourrir. Évidemment, si on obtient beaucoup de business, on peut investir plus dans sa société et on peut être plus performant. Mais parfois, il faut reconnaître que nous avons été confrontés, l'État a été confronté, et même dans votre vie privée, hein, nous sommes confrontés à nos entrepreneurs qui parfois ont du mal à répondre véritablement aux commandes et qui parfois malheureusement disparaissent. Et ça, c'est pas des propos de comptoir. Je veux dire, le ministre des Pistes Rurales a même eu à publier dans la presse la liste des entreprises qui se sont avérées défaillantes. Mais ces pistes-là, c'est des pistes qui passent devant chez les gens, qui mènent les gens au champ, qui mènent les gens au CMS. Et quand on l'attribue à un jeune de la localité, parfois un jeune national, et qui n'arrive pas, et qui même parfois y disparaît, j'imagine que ce n'est pas de gaieté de cœur, j'imagine qu'il a eu des difficultés. Vous imaginez bien la déception et la difficulté des pouvoirs publics. Et donc aujourd'hui, il y a toute une réflexion pour effectivement renforcer les capacités de tout le monde, pour qu'on puisse peut-être avoir une certaine progressivité et une meilleure structuration de ces marchés-là pour pouvoir permettre à ces jeunes de le faire. Mais je pense que la nouvelle équipe qui est mise en place au niveau du ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pourra se pencher sur ce sujet.
Monsieur le ministre, sur ce point, est-ce qu'il n'est pas difficile d'entreprendre au Togo?
Je pense qu'entreprendre est un exercice difficile dans tout, j'allais dire, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que entreprendre exige de la rigueur. Entreprendre exige de la résilience. Entreprendre exige une certaine détermination qui est différente de quand on est dans une situation qui n'est pas une situation que je condamne, mais qui est une situation de salariat, par exemple. C'est un mindset, comme on dit, une mentalité différente qui est nécessaire. Et nous savons tous que, comme on le dit parfois, nous sommes dans des environnements qui sont très challengeants, où il y a énormément de défis, où il y a énormément de choses qui peuvent paraître simples dans d'autres environnements, mais qui paraissent avec beaucoup de challenges. Mais en même temps, nous sommes aussi dans des environnements où nous avons un potentiel économique énorme, que quand on peut s'adresser aux jeunes, que 15% de business est bien structuré et qu'il marche, comme Gozem, etc. Des exemples qui, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas connu des difficultés. Mais aujourd'hui, on peut dire que le modèle économique est assis, a trouvé son public, et grosso modo, marche en termes de business et de modèle économique. Il y en a d'autres que je peux citer. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, oui, c'est une bataille. Dans cette bataille-là, l'État a simplifié beaucoup de procédures. L'État est très attentif. L'État est business-friendly, comme je le dis souvent. Et l'État continue d'accompagner les entreprises.
Monsieur le ministre, il y a Justin qui a une question pour vous.
Oui, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous expliquez la situation qui a trait donc à la cherté des produits vivriers, notamment lorsque mon confrère Eric dans les marchés. Et j'aimerais avoir une idée sur le rôle que joue aujourd'hui l'ANSAT, dans un premier temps. Et là, ma deuxième préoccupation, peut-être que c'est ça a trait à l'article que notre confrère Atu Express a publié, qui concerne le ministre Goumando, lorsqu'il faisait allusion du débouchage de votre formation politique, donc un grand coup. Et nous disons qu'il ne peut pas y avoir de jugement de valeur ou de compétences, de transhumance et autres. Mais il y a une question qui m'est venue à l'esprit, est celle de connaître aujourd'hui la position de M. Georges Aïdam. Il fut un grand responsable du CAR. Oui. À l'époque également, on a parlé du débouchage. Il se retrouve dans le UNIR. Moi, je n'entends plus parler de lui. Actuellement, il est à quel niveau?
Alors, oui, monsieur le ministre.
Je vais peut-être commencer par la fin et adresser mes salutations fraternelles au vice-président Aïdam, qui a été vice-président du Parti Unir et qui a été candidat du Parti Unir lors des récentes élections couplées régionales législatives dans la région des Plateaux, sur la liste des élections régionales. Donc, il reste un cadre de valeur pour nous. Comme je l'ai dit encore une fois, notre parti est un parti divers dans lequel les compétences sont utilisées à divers niveaux. Il est conseiller régional, il va contribuer comme un cadre de notre parti à l'édification de la nation togolaise, de la position où il est. Donc il est un membre du Parti Unir, un cadre respecté et qui apporte de la valeur comme l'ensemble des cadres du parti.
Donc il n'est plus ministre aujourd'hui?
Dans le gouvernement, dans la liste qui a été, non, dans la liste qui a été donnée, je pense qu'il ne figure pas. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous avons tous des positions diverses dans la société et notre apport à la nation n'en est pas moins inférieur. Et les uns sont ici aujourd'hui, ils seront ailleurs demain, et heureusement, c'est cela la République et c'est cela le service de la nation. Le rôle de l'ANSAT n'est peut-être pas de créer un marché dans le marché. Parce qu'il y a les producteurs agricoles qui ont leur production et qui accèdent à des marchés. L'ANSAT a pour vocation à aider les producteurs et à acheter des denrées pour constituer un certain nombre de réserves stratégiques pour, comme je l'ai dit, nous faciliter l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Et parfois, nous parlons de la vie chère, mais quand vous discutez parfois avec des producteurs agricoles, et il y en a, pour eux, ils aimeraient même qu'on les aide à monter encore plus parce que le coût de leur investissement n'est pas encore totalement couvert, comme je l'ai dit, quand on doit faire venir un tracteur, quand on doit acheter des intrants, etc. Donc, il y a une vraie problématique, comme je l'ai dit dans le cas des FOPAT, ceux qui ont assisté peuvent témoigner, qui n'avaient pas forcément de solution immédiate, mais qui était comment, en bout de chaîne, à la fin de la journée, on augmente la production tout en augmentant le revenu des producteurs. C'est pour ça qu'on a parlé de forum des producteurs agricoles et non des agriculteurs, des paysans, etc. C'est pour augmenter le revenu des producteurs agricoles à la fin de la journée. Et donc, les dispositifs d'arriver au niveau... Donc, c'est pour dire que c'est un sujet qui est un peu complexe et l'objectif, c'est les deux en même temps, la souveraineté alimentaire et permettre que les producteurs agricoles aussi puissent s'en sortir, évidemment, en tenant compte de la cherté de la vie et continuer et à prendre des mesures sociales éventuellement pour amortir le choc de la vie chère pour nos populations.
Monsieur le ministre, je voudrais qu'on termine notre entretien par ce sujet qui est également dans l'actualité. Je veux bien parler alors de ce kidnapping où d'aucun parle alors de l'enlèvement. De par sa sortie, nous comprenons tout simplement que le Togo n'est pas informé, ou du moins au niveau même d'ailleurs de, des autorités du pays, on n'est pas informé de cet enlèvement alors de cet activiste béninois. Alors finalement, est-ce que notre sécurité n'a pas fait défaillance?
Nous n'avons pas pour habitude de commenter les procédures qui sont en cours au niveau de la justice. Donc moi, je pense que sur ce sujet, le procureur s'est exprimé. Et je m'en tiendrai vraiment à ce qu'il a dit, les commentaires à faire, dans la mesure où je ne connais vraiment pas, je le dis, je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé. Donc, je m'en tiens vraiment à la déclaration du procureur et je voudrais saluer la mobilisation pour garantir que nous puissions vivre dans la paix et dans la sécurité dans notre pays.
Mais est-ce que ça n'entache pas aussi la relation entre le Togo et le Bénin?
Encore une fois, le procureur s'est exprimé et je m'en tiendrai vraiment à ce qu'il a dit.
Monsieur le ministre, je comprends tout simplement que vous ne voulez pas aller au fond alors de ce sujet, mais déjà, je pense que notre temps est déjà avancé. Eric?
Ben, c'est tout à fait naturel que des gens quittent un pays pour venir kidnapper quelqu'un sur notre territoire. Ça doit véritablement entacher les relations entre les deux pays. Et je voudrais faire observer que dès que le chef de l'État a été informé de cette information, et il a donné des instructions pour que une chasse à l'homme soit engagée tout de suite. Et c'est ça, justement, qui a permis d'arrêter les deux complices parmi les quatre. Et aujourd'hui, la sortie du procureur et à la justice, il a été dit, c'est une information informelle, et qui a été dite que le chef de l'État veut coût que coûte qu'on arrête ces individus là, parce qu'il ne faudrait plus que ça se répète sur notre territoire. Je fais observer également que lorsque vous êtes, nous sommes des journalistes, nous avons été dans le cas, nous avons fait des mois d'exil à l'extérieur. Et donc, quand vous arrivez sur un territoire et que vous êtes en difficulté déjà, il faut vous annoncer aux forces de sécurité et d'ordre, pour que votre sécurité soit déjà engagée par le pays hôte. Sinon, ce qui s'est passé là, en réalité, quand vous sortez, vous revenez, lorsqu'on vient vous kidnapper, personne ne saura qu'il y a quand même une situation comme telle. D'accord. Et donc, c'est une situation très difficile, et je sais que ça doit entacher les relations entre le Togo et le Bénin.
Alors, on va revenir sur le sujet demain, mais Justin, alors, la question que j'ai posée entre-temps au ministre, je voudrais te poser aussi cette question. Est-ce que finalement, notre sécurité n'a pas été défaillante quelque part?
Oui, quelque part, il a lieu à craindre, parce que il y a des conventions internationales qui garantissent quand même le droit de quelqu'un qui a fui une persécution dans son pays, qui vient demander l'asile ou quoi, bon, qu'il soit quand même accepté. Le Togo a ratifié, le Togo fait partie également.
Mais il n'a pas fait.
Non, c'est là où je voudrais quand même faire l'observation pour dire, si l'activiste Hongui qui a été pourchassé du côté du Bénin et a atterri au Togo, est-ce qu'il a eu à faire des démarches nécessaires afin que sa sécurité soit quand même garantie? Et malheureusement, au vu des informations que moi j'ai à ma possession, cette démarche-là n'a pas été faite. Donc il a été enlevé, il a été kidnappé. On a vu très vite la réaction des organisations de la société civile togolaise qui, ma foi, ont attaqué les autorités togolaises pour pouvoir être les complices. Alors qu'en réalité, quand vous analysez la situation entre le Togo et le Bénin, c'était pas vraiment au beau fixe. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a lieu que les autorités togolaises en charge de ces enquêtes-là puissent passer par tous les moyens pour trouver ces messieurs-là qui ont enlevé l'activiste Hounouvi béninois pour le confier aux autorités béninoises. D'accord. Où aujourd'hui il est dans le pétrin, il sera jugé très prochainement dans les jours à venir.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère et monsieur le ministre. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est le moment que les auditeurs attendent plus, c'est-à-dire vos compatriotes sont à l'écoute et ils s'impatientent même d'ailleurs à vous poser des questions sur des sujets discutés ici au Club de la Presse. Et donc nous rappelons aux uns aux autres que nous sommes avec le ministre Kankamalik Natiamba, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs et juste après, nous vous donnons la parole.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
De retour dans cette émission Club de la Presse, monsieur le ministre, je vais vous prier alors de porter votre casque pour écouter les questions des uns et des autres, c'est-à-dire de vos compatriotes qui sont à l'écoute. 90 86 35 35 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Abdel.
Ah, Abdel.
J'avoue que nous avons des difficultés à vous recevoir, c'est-à-dire à capter votre antenne.
Tout à fait.
Dans les zones d'Agbalépé, Do jusqu'à Goua, nous avons des difficultés énormes. Faut vraiment s'éloigner de toute la zone pour pouvoir vous écouter.
Nous
vous avez
annoncé
un problème technique?
Justement, nous l'avons annoncé en début d'émission et donc il y a nos techniciens qui sont à pied d'œuvre quand même pour régler ce problème.
Merci.
Merci beaucoup.
Je voudrais remercier monsieur le ministre Natiamba pour la qualité du débat. Il fait bien chaque fois de venir sur les antennes pour nous renseigner. Et je voudrais renchérir par rapport à la réponse qu'a donnée le ministre concernant le débroussage des cadres de l'opposition. Je ne crois pas que le terme débroussage est un terme approprié que nous devons utiliser dans ce cas. Nous ne devons pas donner l'impression aux citoyens, aux populations, que lorsqu'on est dans l'opposition, eh bien, on demeurera toujours dans l'opposition jusqu'à la fin. À un moment donné, il y a des visions qui changent et on peut émigrer d'un côté à un autre. C'est ce que nous devons comprendre. Et vous, les journalistes, c'est ce que vous devez faire comprendre aux populations et non piger comme lorsque nous sommes dans l'opposition, eh bien, voilà, l'opposition, celui de l'opposition ne peut jamais se retrouver au niveau du parti qui dirige. Non. Et concernant l'agriculture, qui parle de l'agriculture parle également de l'élevage. Entre-temps, à travers un projet que j'ai piloté avec certains membres de notre association, nous avons fait des petites enquêtes. Et au niveau de l'élevage, au niveau de la direction de l'élevage, nous avons constaté que la population togolaise s'alimente mal. En termes de volailles, la population togolaise consomme plus les volailles importées d'ailleurs, parce que en réalité, les prix des volailles coûtent vraiment cher, coûtent la peau de fesses aux populations. Alors, nous avons, monsieur le ministre, initié un projet, puisque moi, je suis de la région des savanes, où tout le monde sait que la pentade vient de la sambane. Donc, nous avons initié un projet fait de la pentade, pour permettre à l'État aussi de faire en sorte qu'il y ait des grands producteurs, des grands éleveurs qui ont des fermes de plus de 10 000, 15 000, 20 000 têtes pour pouvoir permettre au peuple togolais de s'alimenter bien, mais de l'acquisition de volailles un peu moins chères. Bon, ce qui n'a pas été fait-il parce que en ce moment, le ministre Bataka était au niveau de l'agriculture, mais c'est bien que, monsieur le ministre, vous soyez là. Parce que qui dit agriculture dit élevage. Essayez aussi d'être le porte-parole de ces éleveurs pour que dans ce domaine on puisse faire quelque chose ensemble pour faire en sorte que les Togolais s'alimentent bien. C'est ce que j'ai voulu dire à monsieur le ministre.
D'accord, merci beaucoup Abdel pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Okay.
Oui, votre nom c'est
Monsieur Kossi de Sagbado.
Monsieur Kossi, allez-y. Oui, le plateau aussi vous salue.
Bonjour. Salut, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur Kossi. Je
vous par rapport à l'interprétation de l'activisme. C'est dire que nous sommes en train de nous coréler sur notre territoire pour pas que les étrangers viennent nous compliquer la situation. Donc, nos forces de l'ordre ont bien fait de réagir promptement sur les situations des hommes de l'État. Le Togo, nous n'aimons pas ce genre de choses. Là, je félicite les forces de l'ordre. Je continue en disant, par rapport au ministre Gomaro, je l'avais toujours dit, que moi je combats cette façon de tirer son parti politique. S'il est possible à tout membre ou à tout membre de quitter son parti politique, que ça se passe au niveau de l'Union aussi, et on sera à l'aise. Moi, je continue de dire que je condamne cette façon-là de quitter son parti politique sans avoir consulté le clergé du parti. Je le dis, je le répète, que M. Gomaro n'a pas bien fait. Merci, bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, M. Kossi, pour votre intervention 90-86-35-35.
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour. Il y a un bruit même d'ailleurs à côté de lui. On prend notre auditeur. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Pardon?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Ah oui, Richard, depuis Copenhague.
Je suis un peu plus Copenhague.
Allez-y.
Vous m'excusez, je n'ai pas de retour. Non, c'est pas ce moment. Bonjour, Richard.
Bonjour, monsieur Richard.
J'ai une préoccupation que tu t'as pas encore connu.
Décidément, Richard, vous voyez, on a des difficultés à vous écouter.
C'est la bouche de Tara, de Tachido, de Tachia. Je ne sais pas, vous avez dit, la manière de faire une taille est ma histoire. Je me sens dit qu'au moment où je suis là, vous avez mis à partir de ce à être en de la vie. Je ne sais pas si vous voulez vous passer de bonnes accidents que vous faites à cette population. Et la plupart des routes du Togo, les routes ont été coupées. Car on n'a jamais coupé. Donc, vous êtes amis, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que vous faites? Vous programmez que cette route serait faite jusqu'à la fin de l'année?
Décidément, nous avons des difficultés à suivre Richard. On va prendre un autre auditeur parce que nous avons tellement de difficultés à suivre Richard. Il semble qu'il y a un écho à côté de lui, bien sûr. Allô? Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô?
Oui, bonjour. Je vous écoute. Comment vous allez?
Allô?
Ah, décidément, il n'y a pas de retour aussi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Si vous nous appelez, ayez au moins un poste récepteur à côté pour avoir de retour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Nous avons aujourd'hui le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre Kankan Malick Natsamba avec nous. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Comment vous allez? Allô? Décidément, il n'a pas de retour non plus. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour.
Allô?
Ah, mais décidément, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse à l'heure de ce mardi. Et il nous reste encore quelques minutes, on va essayer de recevoir un dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? Allô, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Allô? Allô?
Oui, bonjour. Ah,
apparemment,
il n'y a pas de retour. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Non, mais là, demain, nous allons justement clôturer cela. Hein, pour ce qui concerne l'intervention des auditeurs, nous allons le clôturer ainsi. Alors, monsieur le ministre, vous avez écouté les uns et les autres. C'est vrai que ceux qui ont intervenu n'ont pas plus posé des questions. Il y a des gens quand même qui ont fait des remarques et d'autres des appréciations, comme Abdel, bien sûr. Si vous avez quelque chose à dire hein, par rapport à ces interventions de vos compatriotes.
Merci beaucoup. Oui, sur les questions d'élevage, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'IFAD élevage a été mis à Barcossi pour irriguer toute la région des savanes. C'est parce que justement, il a été perçu comme l'élevage était stratégique pour la zone des savanes. Donc oui, un festival de la pintade, pourquoi pas. C'est une initiative qui peut être saluée et tout ce qui contribue à valoriser nos productions locales, nous ne pouvons que les encourager. Monsieur Cossi a plutôt encouragé les forces de l'ordre et a exprimé un avis personnel sur la démarche de Monsieur le ministre Gumado. Je pense que les opinions sont diverses. Hein. Il y a pas de. Je comprends. Il a bien dit que c'était son opinion. Donc, on peut ne pas être de cet avis, mais c'est son opinion et on la respecte tout à fait. Et Monsieur Richard, qui a évoqué, je crois, le réseau routier dans la région de la Cara, essentiellement autour de la ville de Cara, en disant est-ce qu'il y avait des projets. Et je lui répondrai oui. Je ne sais pas depuis quand il n'est pas allé dans la zone, mais.
Ah, oui, il est à Copenhague. D'accord.
Donc, nous pouvons partager avec lui les réalisations dans la zone, que ce soit en voirie urbaine ou que ce soit dans les différentes les voies qui relient les cantons de la région de la Cara. Et on sait, si on prend il y a quelques années en arrière et aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus facile de circuler, y compris en période des évalas, comme il a eu à le dire. Hein. Nous l'expérimentons et nous le constatons effectivement chaque année. Et avec le parachèvement de la voie Sarakawapia, etc., il y a des travaux qui sont d'importance et qui sont en train d'être menés. Donc, je crois que c'était les trois interventions.
Tout à fait. Merci beaucoup. Eric, nous
sommes oui, à la fin. Oui, je pense que cette déclaration de politique générale du gouvernement intéresse beaucoup les concitoyens et c'est surtout par rapport au volet social. Monsieur le ministre a bien fait de prendre en compte le premier axe hein, de la feuille de route gouvernementale pour nous expliquer un peu les réalisations faites, et etc. Mais nous continuons par dire que ces réalisations se fassent dans un esprit de cohésion nationale, que ça ait directement des impacts sur les populations. Quand vous parlez de PIB qui évolue, alors que ça n'impacte pas la vie quotidienne de nos concitoyens, ça pose un problème. Et je voudrais vous défier qu'après 10 mois, c'est-à-dire en mars, en mai 2025, que le gouvernement revienne nous faire un point hein, qui soit peut-être à 90% hein, des réalisations par rapport à la feuille de route gouvernement. Nous vous faisons confiance. Nous sommes des concitoyens. Nous ne pourrons que dire bon vent à vous. Et surtout, on n'a pas eu assez de temps pour parler beaucoup plus de l'éducation. Et c'est dommage, mais ce n'est que partie remise, monsieur.
Tout à
le
fait,
ministre.
Ce n'est que partie remise.
Absolument. Ok.
D'accord. Justin,
monsieur le ministre, promettez-nous que vous allez revenir. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous aimerions quand même aborder avec vous. Surtout que pour la plupart du temps, vous êtes disponible à éclairer la lanterne de l'opinion. Un ami qui s'appelle Dieudonné de Souza, il est agent au niveau de la CET à Nero, oui. Et tout le personnel de l'autre côté nous suit, donc il passe par moi pour vous saluer et vous encourager également pour le travail,
beaucoup,
pour la mission qui vous est confiée. Voilà, et il y a un fait, normalement oui. On n'en a pas parlé, mais ça se passe à Ablogamé. La zone de Golf 1, toute la zone là, il n'y a que des caniveaux mortels.
au point que
on la zone est un chantier.
Et un chantier, ça fait quelqu'un plus de deux ans.
Quelqu'un a ouvert le chantier.
Ah oui, et ça fait des mois. Mais le paradoxe, c'est qu'on a placé des digues, on a placé des fers de béton, et que ces caniveaux-là ne sont pas couverts. Et malheureusement, ça a créé des dégâts.
Et ça donne de difficultés pour les populations.
Les populations également. Donc, c'est un sujet sur lequel peut-être on va revenir.
Justement, on va revenir là-dessus.
Et je ne sais pas si on a encore énormément de temps, mais j'aimerais demander au ministre, peut-être pour terminer, comment expliquez-vous la position du ministre Kokoroko aujourd'hui, député, qui est au même moment
vice-président
au Parlement, oui. Il est en même temps ministre. Comment vous pouvez nous expliquer ça?
D'accord. Monsieur le ministre, rapidement.
Merci beaucoup pour l'impact. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi, je considère que le recul que nous avons constaté au niveau du taux de pauvreté et les progressions de l'IDH que nous avons constaté, c'est un impact. Après, comme vous le dites, peut-être qu'il faut le constater au quotidien encore plus et nous sommes tout à fait d'accord. Sur les caniveaux, effectivement, je pense que si vous voulez en parler, on peut s'approcher des ministères concernés qui pourront expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là. S'agissant des ministres, du ministre Kokoroko, le ministre Kokoroko est aujourd'hui membre du gouvernement. Et donc, selon la procédure du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il choisira d'être membre du gouvernement et donc ne sera plus normalement dans la dynamique d'être un élu de l'Assemblée nationale. On sait que ces deux fonctions ne sont pas compatibles. Donc, le fait qu'il ait été confirmé en quelque sorte dans le gouvernement est une indication très claire du fait qu'il sera, il ne sera en tout cas pas député siégeant. Il est député élu, mais il ne sera pas député siégeant lors de cette législature, comme d'autres ont été élus et qui ont été confirmés. On parle seulement du député Kokoroko, mais la ministre Kuigan a été élue. Un certain nombre de ministres sont des élus de notre parti, mais le chef de l'État a trouvé qu'ils étaient peut-être plus utiles au moment où nous parlons dans le gouvernement que au niveau de l'Assemblée nationale.
Donc ça voudrait dire que après cette histoire qui vous est chère, après la transition, ils vont retourner au Parlement?
Non, pour le moment, ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans le gouvernement et c'est pas un jeu de chaises musicales. Et souvent, quand on est au gouvernement, le suppléant siège à votre place et les choses continuent à suivre leur cours. Donc voilà, donc c'est comme ça que cela va se passer.
D'accord, Monsieur le Ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Le mot de la fin est de remercier Canal FM, de remercier les confrères pour l'invitation et la qualité des échanges comme d'habitude, et dire que ce cycle dans lequel nous sommes engagés sous le très haut leadership du chef de l'État est un cycle qui concerne comme d'habitude tous les Togolais et pour lesquels il sera nécessaire que nous soyons unis et cohérent pour pouvoir réaliser les objectifs de développement de notre pays dans cette nouvelle architecture institutionnelle qui va nous aider à atteindre nos différents objectifs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être passé alors dans cette émission. Et ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci. Ce n'est pas la première fois. Je sais que ce n'est pas aussi la dernière fois. On aura toujours l'occasion de vous avoir alors dans cette émission pour nous parler alors de la manière dont les choses se passent au niveau du gouvernement. Eric, rapidement, nous allons finir cette émission.
Oui, je pense que nous n'avons pas eu le temps aussi de parler de la nomination des 5 gouverneurs de région.
Oui, on en avait parlé.
C'est un sujet très important parce qu'il va falloir que les gens lisent les tests. Les gens ont commencé par mener des critiques sans lire les tests. Absolument. Parce que les gens pensent qu'il faut que ce gouverneur-là soit élu quelque part. Les tests ne le disent pas.
Tout à fait.
Et moi, j'ai fait une comparaison même avec la France, la Belgique et tout ça. Et j'ai vu qu'aucun gouverneur n'est élu.
Tout à fait.
Puisqu'il est le représentant direct du gouvernement.
Voilà. Merci beaucoup, Eric. Ah. Nous allons revenir sur le sujet. Et Justin, merci beaucoup à toi aussi d'être passé alors dans cette émission. Monsieur le ministre, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous vous êtes monsieur Kankan Malik Natchaba. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Thomas Ited Atevi qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.